parole du jour avec le Père Willem.
Sortir de l'angoisse, c'est un acte spirituel. Articles de journaux, films ou documentaires, la question écologique est partout. Les images de fonte de classe et les chiffres alarmants. Tout porte d'emblée à l'angoisse. On nous décrit une course irrépressible vers une fin violente de l'histoire humaine, marquée par des migrations, des famines et des guerres pour l'accès aux ressources. D'ailleurs, il est souvent fait allusion au vocabulaire de l'Apocalypse dans les milieux scientifiques pour évoquer ce qui se produit sous nos yeux. Aborder la crise écologique revient, comme Marie, à plonger la tête dans un tombeau obscur. C'est un fait. L'activité humaine, depuis la révolution industrielle, a induit un changement de concentration du gaz dit à effet de serre dans l'atmosphère, avec une accélération ces dernières décennies. Outre le réchauffement que cela induit, les scientifiques observent un changement de tous les grands cycles bio-géochimiques, à carbone, azote, oxygène et l'eau bien sûr, à l'échelle planétaire. Il en va de même pour la biodiversité, la disparition massive de nombreuses espèces est qualifiée de sixième grande extinction. Devant tous ces indicateurs environnementaux qui connaissent une inflexion rapide, certains scientifiques évoquent une grande accélération dont on ne connaît pas l'issue. De fait, les modèles pour étudier un objet aussi grand que la Terre supposent un effort colossal d'intelligence collective et une vaste collaboration scientifique entre des disciplines et laboratoires à travers le monde. Établir des scénarios pour envisager l'avenir du climat s'avère alors un exercice très complexe, bien au-delà de la simple modélisation. Néanmoins, quel que soit leur modèle, les meilleures équipes envisagées, toute une organisation est nécessaire et une augmentation continue et forte de la température du globe au cours du XXIe siècle. Ce changement se traduira par des variations très significatives des écosystèmes, quoique de façon très différenciée selon les régions du monde. En Europe, nous ne sommes pas les plus touchés, ce qui rend ce phénomène plus difficile à appréhender. Devant toutes ces données qui portent un message de mort, nous pouvons rester figés, fascinés et pleurant comme Marie-Madeleine. Une attitude de déni est également possible, tant est remis en question le progrès réalisé et qui est relié à la modernité. C'est ce que l'on nomme l'écoscepticisme. Pourtant, ce sombre panorama laisse déjà entrevoir une source d'espérance pour le croyant ou l'homme de bonne volonté. Il y a déjà des anges blancs au fond du tombeau obscur. L'humanité, à travers la communauté scientifique dont elle s'est dotée, est capable de coopérer pour produire un tel ou tel savoir et générer une prise de conscience. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, avec ses procédures et son fonctionnement exigeant, est un modèle très impressionnant de collaboration pour éclairer les gouvernements. Notre première conversion écologique consistera à regarder ces résultats sans fuir ni tomber dans l'abîme, mais avec responsabilité, avec calme également. C'est exactement l'attitude qu'adopte le pape François dans son encyclique Laudato Si. Méditer sur ces données sans s'affoler doit conduire peu à peu un retournement. Nous nous demanderons alors ce que nous pouvons faire. De fait, sortir de l'angoisse est déjà un acte spirituel, car nul doute que l'ennemi de la nature humaine sait s'en saisir comme d'une faille pour nous détourner de Dieu et de nos frères. Il faut du courage, en particulier pour le scientifique, pour ne pas désespérer. Pour cela, il faut accepter humblement de revenir à sa place, sans entrer dans une culpabilité désordonnée qui serait l'autre face d'une immense prétention à la toute-puissance. Un jour, vous vous souvenez peut-être, sainte Claire d'Assise consolait saint François en lui racontant que si elle apprenait qu'une de ses sœurs avait cassé un pot à eau, elle la rabrouerait peut-être. Mais si on lui annonçait qu'un incendie a détruit le couvent, elle réagirait ainsi. « Je me trouverais devant l'événement qui me dépasse, la destruction du monastère. C'est là vraiment une trop grosse affaire pour que j'en sois profondément troublé. » Il y a là beaucoup de sagesse et une première règle de discernement que nous pouvons retenir. Pourtant, notre conversion ne serait pas achevée si nous en restions là. Il faut poursuivre notre retournement. Si l'on accepte de prendre Marie-Madeleine comme guide en matière de conversion, il faut donc, comme elle, se laisser toucher au cœur. Mais comment ? Une piste spirituelle se trouve, contrairement à ce que nous pensons, du côté d'un art du sabbat. L'art du sabbat, le connaissez-vous ? Eh bien, dans la Bible, celui-ci, c'est le commandement par excellence, le sabbat, qui récapitule tous les autres parce qu'il les rend réalisables. Le sabbat, une suspension de notre activité pour reprendre souffle. Dieu donne ainsi lui-même l'exemple en se reposant au septième jour de sa création. Dans la Bible, cette interruption volontaire pour se reposer s'applique à tous. La femme, l'enfant, l'esclave, l'étranger, et même le bétail, tous s'abstiendront de travailler le jour du sabbat. Oui, même nos vaches de nos prairies, elles ont besoin du sabbat pour vivre. Elles ont besoin de les tranquilles un jour de la semaine. Elles sont si heureuses de nous voir regarder en passant devant elles. Elles ont une certaine fierté d'exister, les vaches. Vous les connaissez bien. Oui, le sabbat, c'est le commandement suprême dans la Bible. Eh bien, ce repos est à vivre chaque semaine, mais aussi lors des jubilés, tous les 50 ans. Les esclaves sont alors libérés et la terre n'est pas cultivée. Si le sabbat est une terre promise, il n'est plus simple de retourner la trace des sentiers qui y conduisent dans nos sociétés marquées par l'accélération. Pour adopter une véritable pratique sabbatique, chacun trouvera la forme et la fréquence qui conviennent et lui rendre possible une respiration intérieure ordinaire. Peut-être suffira-t-il un instant, d'arrêter ses activités ordinaires ou de les pratiquer autrement qu'au long de la semaine. Certains reprendre contact avec la nature en allant se promener dans un lieu boisé ou au bord d'un fleuve ou tout simplement en jardinant. Pour d'autres, repos sabbatique empruntera un chemin de contemplation artistique ou de bonheur esthétique, visite d'un musée, concert, disque de jazz. D'autres trouveront le repos de la dans la création, en fabriquant quelque chose, en faisant de la couture ou en préparant un bon repas. Ces manières de faire nous prédisposent à une prière plus simple et plus spontanée. Ainsi, de halte en halte, est-il donné à celui qui vit un vrai sabbat de construire des cathédrales dans le temps. Oui, des cathédrales. Vous pouvez être constructeur de cathédrales dans large espace où il fait bon revenir. Avant de faire quelque chose, il est donc urgent de ne rien faire pour regarder le monde autrement.